Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international qu'on retrouve du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clémence Alezard, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Alors que les forces irakiennes s'apprêtent à lancer la fameuse grande offensive pour reprendre la ville de Mossoul à l'État islamique, on nous annonce depuis des mois, le gouvernement central de Bagdad et les autorités du Kurdistan continuent de négocier les modalités de leur intervention et surtout de discuter sur l'après-Daesh. La semaine dernière, Massoud Barzani, le président du gouvernement régional du Kurdistan, négociait avec le Premier ministre Haider al-Abadi les conditions de la grande bataille à venir. Des discussions qui donnent un avant-goût des futures négociations sur le partage du pouvoir et des territoires entre les trois grandes communautés irakiennes, chiites, kurdes et arabes sunnites. L'emprise territoriale de Daesh pourrait disparaître dans les prochains mois et révéler alors au grand jour les profondes fractures de la société irakienne. Turkmène, sunnite, kurde, l'Irak écartelé, c'est notre sujet ce matin.
Les Kurdes ont dû fuir cet endroit à l'époque de Saddam Hussein et ils doivent maintenant revenir dans leur village. À l'époque, le régime amenait des Arabes pour arabiser cette région. Ils leur ont donné des terrains et ils ont construit des maisons. Mais maintenant, les Arabes doivent rentrer chez eux, dans les villes du sud, comme Tikrit ou Bagdad.
À Diyala, Jalawla et Saadiyya, c'est sous contrôle kurde maintenant. Les Kurdes empêchent même les Arabes sunnites de rentrer dans leurs maisons. Ils font tout pour contrôler totalement la région, mais je leur ai dit, vous allez perdre beaucoup d'hommes et d'argent. Ces territoires ne leur appartiennent pas. Même chose dans la région du Sinjar, les Yézidis ne veulent pas de la mainmise kurde. Nous voulons que les Kurdes respectent les minorités et leurs droits.
Ce n'était pas assez pour eux de prendre nos villages, nos maisons. Ils nous ont aussi confisqué nos terrains agricoles. Pour l'instant, nous n'avons pas l'intention d'utiliser les armes. Nous n'allons pas transgresser la loi. Et nous reconnaissons uniquement l'autorité du gouvernement de Bagdad.
Alors que les Kurdes ont largement participé à la reprise de villages tombés dans les mains de l'État islamique, y compris dans des zones extérieures au Kurdistan irakien définies dans ses frontières officielles, aujourd'hui les autres composantes, arabes sunnites, yézidis, assyriennes, turkmènes, s'inquiètent d'un pouvoir kurde dominateur qui ne respecterait pas leurs droits. En 2005, la nouvelle constitution validée par référendum instaurait le fédéralisme et la division de l'État en communautés. L'autonomie du Kurdistan était renforcée et les chiites, longtemps écartés du pouvoir, en reprenaient les rênes au détriment des sunnites marginalisés à leur tour. Mais 11 ans plus tard, les conquêtes fulgurantes de Daesh, puis les victoires successives des Peshmerga ont largement rebattu les cartes. Quelles sont aujourd'hui les limites territoriales du Kurdistan irakien, dont les combattants se sont battus contre les djihadistes largement au-delà des frontières instituées en 2005? Comment redonner aux arabes sunnites une représentation politique dans des régions où une large partie de la population a soutenu les djihadistes de l'État islamique? Et comment réconcilier les communautés et inclure ou défendre les minorités assyriennes, turkmènes, chaldéennes, prises en étau entre kurdes et arabes? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ici en plateau Adel Bakawan. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Adel Bakawan. Vous êtes docteur en sociologie politique, vous êtes chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, au Centre d'analyse et d'intervention sociologique, le CADIS, et puis vous êtes chargé de cours à l'Université d'Evry. Ça fait plusieurs semaines, Adel Bakawan, qu'on nous annonce la grande offensive de Mossoul. Vendredi dernier, des rafales décollées du porte-avions Charles de Gaulle. Certains analystes ont vu tout cela comme le prélude à cette grande offensive qui devrait venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Visiblement, les États-Unis voudraient lancer les assauts au plus tôt, alors que l'armée irakienne, elle, ralentit. Elle aurait demandé, je crois, un délai avant de la lancer. Pourquoi l'assaut de Mossoul tarde?
Oui, une très bonne question. Alors, tout d'abord, il faut dire maintenant, on est entré en chair et en os à l'échelle internationale et locale dans ce qu'on appelle le processus de la mobilisation. On est dans la mobilisation des acteurs. À l'échelle internationale, on a les Américains avec 4600 soldats. On a les Français avec les 22 rafales totalement mobilisés. À l'échelle locale, on a le gouvernement de Bagdad et le GRK de Barzani également mobilisé.
Le gouvernement kurde régional.
Voilà, le gouvernement régional du Kurde, KRG en anglais, GRK en français. La région kurde, on est dans la mobilisation. Et pourtant, la bataille de Mossoul n'est pas pour demain. Ne sera pas pour demain. Ne sera pas pour la semaine prochaine. À mon avis, ce sera même pas pour le mois d'octobre.
Oui, et pour comprendre cette raison, Adel Bakawan, peut-être que ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, la bataille de Mossoul, elle sera pas seulement militaire. Elle est peut-être avant tout politique. Le véritable enjeu, c'est de savoir comment la ville sera gérée après le départ des djihadistes. Ce qu'on craint très clairement, ce sont des affrontements entre les milices chiites loyales au gouvernement de Bagdad et les tribus de la zone, mais aussi d'éventuels combats entre les Kurdes qui sont dans une logique d'expansion territoriale. Les risques de dérapage dans cette libération de Mossoul, qui pourrait se transformer peut-être en nouvelle guerre civile, sont réels.
Alors, je continue mon argumentation dans votre sens pour dire la coalition internationale représentée par les États-Unis et la France qui mettent toutes les cartes de pression sur les acteurs locaux, les Kurdes et les chiites, pour lancer la bataille de Mossoul, malheureusement n'ont pas un projet politique pour l'Irak après Daesh. Et parce qu'ils n'ont pas un projet politique, les acteurs locaux, les Kurdes et les chiites, voire les sunnites, ne peuvent pas s'engager et céder à cette pression forte et terrible de la coalition internationale. Pourquoi ils veulent pas céder? Parce que tout simplement, ils sont déjà passés par là. Pourquoi Daesh? Pourquoi Daesh en Irak? Et pourquoi Daesh a contrôlé la première ville sunnite en Irak et la deuxième ville irakienne, Mossoul, hein? Parce que tout simplement, il y a une condition objective pour l'émergence d'une telle force qu'on appelle aujourd'hui Daesh. Alors, tant que la coalition internationale ne traite pas cette condition objective qui a produit Daesh, alors, à mon sens, les acteurs locaux feront attention à se lancer dans la bataille de Mossoul.
Alors, vous dites qu'il n'y a pas de projet politique pour l'après-Daesh. Peut-être qu'il n'y a pas de projet politique commun. Mais il y en a un, parce que quand on regarde les différents acteurs, les Kurdes, gouvernance centrale chiite, la composante arabe sunnite, on est en train de chercher un accord sur la forme de l'intervention. Barzani est en ce moment à Bagdad pour négocier cet accord. Alors, il faut regarder, essayer de voir quel pourrait être le rôle des uns et des autres. Visiblement, pour le moment, les Kurdes sont disposés à laisser les forces irakiennes se développer sur le front nord et sur le front est de la ville qu'ils tiennent pour le moment, à condition que l'armée s'engage à partir après la reprise de la ville. Donc là, on le voit bien, le projet, l'objectif pour les Kurdes, c'est de conserver le contrôle sur ces zones qu'ils ont libérées et qui sont des zones contestées. On va y revenir.
Alors, voilà ce qui s'est passé à Bagdad. Barzani ne s'est pas rendu à Bagdad depuis 3 ans. C'est la première fois qu'il se rend depuis 3 ans à Bagdad. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi Barzani se rend en ce moment à Bagdad? Tout d'abord, il y a la pression américano-française. Il y a une grande délégation américano-française à Erbil et à Bagdad, qui pousse les deux capitales, Erbil et Bagdad, à trouver un accord sur la libération de Mossoul, mais aussi sur d'autres problématiques comme pétrole, comme les zones que les Kurdes l'appellent détachées du Kurdistan, et les Arabes l'appellent territoires disputés. Détachés et disputés. Vous voyez, ils sont même pas d'accord sur la terminologie, hein, la qualification de ces territoires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, concernant la ville de Mossoul, voici l'accord très très critiqué entre Barzani et Abadi. L'accord après la libération de Mossoul, un comité constitué de tous les composants de la ville gérera la ville, voire la province, jusqu'aux élections en 2017. D'accord. Mais est-ce que cela peut être un projet politique? Bien évidemment que non. Lorsqu'on parle du projet politique, on parle d'un projet politique qui traite, hein, la condition objective qui a produit Daesh, à savoir à savoir la marginalisation radicale de la communauté sunnite dans le champ politique irakien. Alors, est-ce que les Kurdes et les sunnites qui gèrent ce pays depuis 2003 ont un projet pour intégrer la communauté sunnite dans l'Irak après Daesh? À ma connaissance, non. Mmh. Oui, bien évidemment, la deuxième problématique sur laquelle Abadi et Barzani ils ont travaillé, ils ont trouvé un accord, c'est les territoires disputés, comme vous dites, l'expansion des Kurdes. Qu'est-ce qu'on fait de 1025 kilomètres récupérés par les Kurdes?
Eh ben, Massoud Barzani, il a une idée. Parce qu'avant d'être à Bagdad, il est passé à Paris pour demander un soutien accru à Paris dans cette opération, ce que visiblement Paris lui a accordé. Et c'était l'occasion d'évoquer justement le cas de ces territoires disputés. Écoutez.
Aujourd'hui, je peux vous dire que les territoires du Kurdistan sont totalement libérés de Daesh. Suivant la constitution irakienne, des territoires ont été appelés territoires contestés. Pour nous, ce sont des territoires en dehors de la gestion de la région du Kurdistan. Et suivant la constitution irakienne, nous nous sommes mis d'accord pour la tenue d'une normalisation et d'un référendum. Et nous allons respecter l'avis du peuple.
Une normalisation et un référendum. Donc, je le répète, à mesure que les Peshmerga combattaient l'État islamique et reprenaient des territoires à l'extérieur des limites du gouvernement régional du Kurdistan, bien sûr, à partir de ce moment-là, se pose la question du devenir administratif de ces territoires. Massoud Barzani, on l'entendait, qui est président de cette région autonome du Kurdistan irakien, lui, il se dit favorable à la tenue d'un référendum pour tous ces territoires conquis en réalité. Est-ce que c'est une option qui pourrait être acceptée par les territoires, par le pouvoir central de Bagdad?
Alors, il faut, oui, bien sûr, Abadi, selon l'accord que j'ai des informations précises, selon l'accord entre les deux, Abadi a accepté officiellement que les Peshmerga, après la libération de Mossoul, restent dans les zones récupérées par eux-mêmes, c'est-à-dire les 1025 kilomètres du territoire disputé ou détaché du Kurdistan.
En gros, c'est 40% du territoire officiel. À peu près.
Mais pourquoi la
qu'est-ce
question,
qu'il a gagné pour, voilà, qu'est-ce qu'il a gagné?
Voilà, pourquoi Abadi a accepté, tout en sachant que depuis des années et des années, tous les représentants de la communauté chiite au pouvoir à Bagdad refusent catégoriquement. Non seulement ils refusent, ils ont menacé en brandissant les drapeaux de l'armée irakienne pour attaquer le GRK. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ça se fait qu'Abadi accepte maintenant? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Barzani a apporté son soutien inconditionnel à Abadi contre son ennemi juré, à savoir Nouri Mali. Nouri Mali, premièrement. Deuxièmement, Barzani a accepté que le gouvernement de Bagdad, à partir de maintenant, reprendre le contrôle du pétrole de Kirkuk, avec bien évidemment 17% pour le GRK. Hein, 17%. Mais
Kirkuk qui est une zone pétrolière.
Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors donc désormais c'est le gouvernement irakien central qui vend le pétrole de Kirkuk. Troisièmement, pourquoi Abadi a accepté? C'est parce que les Peshmerga facilitent le cheminement de l'armée irakienne vers la ville de Mossoul. Et le poids le plus important dans cette équation, dans ces rapports de force, à mon avis, c'est l'alliance entre Barzani, Hakim et Sadr pour soutenir, comme je l'ai déjà dit, pour soutenir Abadi contre Maliki. Pourquoi? Parce que Maliki a un projet bien déterminé pour revenir au pouvoir et chasser Abadi en 2014, au moment où...
Quel ancien Premier ministre,
au moment où Abadi est arrivé au pouvoir sur une autre chaîne, j'ai dit, Abadi est le candidat faible autour duquel les forts du gouvernement irakien se réunissent. Et les forts, aujourd'hui, ils veulent sauver le soldat Abadi.
Adel Bakawan, on comprend que pour le pouvoir central de Bagdad, c'est d'accord pour ce référendum. Mais qui va voter? Parce que en 2003, l'objectif des Kurdes, c'était de mettre fin à la politique d'arabisation lancée par le régime à partir des années 70, qui a poussé des centaines de milliers de Kurdes à quitter leur région pour y installer des Arabes sunnites. Après la chute de Saddam, certains ont pu regagner leur village. Avec la reprise des villages tombés dans les mains de Daesh, les Kurdes ont également poursuivi une politique de renforcement à travers laquelle ils ont cherché à écarter les Arabes des zones prises pour s'assurer une plus forte présence, évidemment, de populations kurdes sur ces territoires, compte tenu de ces allées et venues réguliers dans ces villages, dans ces zones. Comment est-ce qu'on fait pour définir la légitimité d'un tel ou un tel sur ce scrutin-là? Qui va pouvoir voter?
Il n'y aura jamais un référendum. Peut-être je suis un peu radical, peut-être en tant que chercheur je dois nuancer et mettre des parenthèses, des guillemets, des phrases en italique, mais en réalité...
Il n'y aura jamais de référendum. On s'est mis d'accord sur un référendum, mais il n'y en aura jamais.
Une analyse approfondie de la situation irakienne depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui met en évidence qu'il n'y aura jamais un référendum dans ces territoires disputés. La seule logique qui s'impose, la seule logique qui en fin de compte, détermine le processus, l'ordre de choses, c'est les rapports de force. Si les Kurdes peuvent garder leur domination militaire sur ces territoires disputés, ils y resteront et il n'y aura pas un référendum. Je vous donne un exemple. En 1991, lorsque le Kurdistan irakien a été, entre guillemets, libéré du régime, du pouvoir central Bagdad, du régime de Saddam Hussein, il n'y a jamais eu un référendum pour savoir si cette zone sera une zone autonome, fédérale, indépendante ou pas. Non.
Et pourtant, elle est devenue. Et
il est devenu par la force de choses. Alors, aujourd'hui, oui... il y a à peu près 150 000 Peshmerga qui occupent, pour les Kurdes libères, ces 1025 kilomètres. Comment le gouvernement de Bagdad déchiré en éclats, en mille morceaux, avec une armée faible, affaibli, confessionnel, déchiré, une armée sans conviction confronter les forces kurdes et le GRK. Aujourd'hui, je pense que la réponse est négative et cela est impossible et la tragédie irakienne va continuer avec cette vision. Deux choses.
Bon, Adel Bakawan, on résume. Donc en gros, on s'est mis d'accord sur un référendum, mais de toute façon, référendum, il n'y aura pas. Finalement, l'autonomie du Kurdistan irakien, elle s'est faite sans référendum, elle s'est faite par la force des choses. Je reprends votre expression. Est-ce que, par la force des choses, on pourrait aller plus loin? Aujourd'hui, Erbil exploite son pétrole, sans l'aval du gouvernement irakien, traite directement avec les puissances occidentales quant à sa sécurité. On disait à l'instant que Barzani est venu à Paris. Il a rencontré François Hollande, il a rencontré Jean-Yves Le Drian. Donc, d'une certaine manière, les affaires sécuritaires, elles sont gérées de façon totalement autonome, voire carrément indépendante. Est-ce que l'indépendance totale, donc la création d'un État kurde irakien, ne serait pas la conséquence logique de tout ça? Sans compter qu'évidemment, elle serait l'aboutissement d'un rêve d'indépendance de près d'un siècle.
Une conséquence logique. Alors, qu'est-ce qu'on a au Kurdistan? Peut-être cela n'est pas clair pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez une présidence... Vous avez un parlement, vous avez un gouvernement, vous avez un État fédéral, hein, un gouvernement fédéral. Le fédéralisme est reconnu par la constitution irakienne. Aujourd'hui, vous avez une société kurde qui se considère pas à 90% comme irakienne. Notamment la nouvelle génération qui ne parle absolument pas l'arabe, une nouvelle génération qui parle couramment l'anglais et le kurde, et à part l'anglais et le kurde, ils comprennent pas une phrase correcte en arabe, et qui ne regardent pas les chaînes arabes, qui n'écoutent pas les radios arabes.
Ouais, bon, la réponse est oui.
Alors, mais voilà, à l'état pratique, la seule chose qui relie le GRK à Bagdad, c'est le domaine monétaire. Ça, c'est le seul élément. Et pourtant, lorsqu'on analyse la situation du GRK d'une manière objective, la réponse est non. L'indépendance du Kurdistan n'est pas pour demain. Et tout ce qu'on entend sur l'indépendance du Kurdistan, comme j'ai explicité tout cela dans mon article, le mythe de l'indépendance du Kurdistan, ressemble plutôt à une carte d'oppression de M. Barzani contre ses adversaires, contre Soleimania, contre Bagdad, contre Téhéran, contre la coalition internationale, et objectivement, ni à l'échelle militaire, ni à l'échelle sociétale, ni à l'échelle économique, ni à l'échelle sécuritaire, le Kurdistan irakien, pour ne pas entrer dans le détail, n'est pas prêt pour une indépendance. L'indépendance a besoin d'une condition objective. Alors cette condition objective, aujourd'hui, n'est pas là.
Oui, surtout qu'évidemment, en plus au tableau des éléments qui jouent contre l'émergence de cet État kurde-irakien, un certain nombre de pays extérieurs, évidemment, qui s'y opposeraient. On pense à l'Iran, qui veut garder par ailleurs un Irak uni et ce gouvernement chiite. On pense évidemment aussi à la Turquie, pour qui la simple évocation de l'hypothèse d'un État kurde est absolument impossible. Est-ce que, au sein des Kurdes eux-mêmes,
si vous me permettez juste une parenthèse, je clarifie quand même mon propos avec une petite phrase. Cette analyse ne veut pas dire que je suis Adel Bakawan en tant que chercheur, sociologue franco-kurde, et je suis contre l'indépendance du Kurdistan. Bien sûr que non, parce qu'en fait, souvent on interprète mes propos, mes analyses comme si j'étais... Non, je suis pour l'indépendance du Kurdistan. Mmh. Mais objectivement, la condition n'est pas prête pour cette indépendance.
On comprend très bien. Vous pensez à la fois que ça serait dans la logique des choses, mais qu'en réalité, le tableau qu'on a là sous les yeux ne permet pas l'émergence de cet État. On comprend très bien la nuance. Regardons les principales figure politique kurde. Massoud Barzani, président évidemment du gouvernement régional kurde. Jalal Talabani, l'ancien président irakien, le fondateur de l'Union patriotique du Kurdistan, pardon, qui est le deuxième parti politique kurde. Et puis Nashirwan Mustafa, le chef du principal parti d'opposition, le parti Goran. Est-ce que ces trois figures-là ont la même idée sur la question de l'indépendance? Ou est-ce qu'on se déchire déjà entre ces...
Non, ils n'ont pas la même idée. Ils sont tous pour l'indépendance du Kurdistan. Personnellement, je n'ai jamais rencontré un Kurde au Kurdistan d'Irak avec une position contre l'indépendance du Kurdistan d'Irak. Et Dieu sait que je me rends régulièrement et je fais du travail du terrain. J'étais là la semaine dernière, je viens rentrer. Alors, il n'y a pas une voix contre ni Nashirwan Mustafa, ni Talabani, ni Barzani, mais sur le chemin pour arriver à l'indépendance, le processus par lequel on doit passer pour construire un État
kurde. Mais pas le même. Qu'est-ce qui diffère entre ces trois-là?
Pour Massoud Barzani, l'indépendance du Kurdistan est une cause sacrée pour laquelle on sacrifie tout. On sacrifie tout. L'économie, le social, le sécuritaire, le parti, voire les Kurdes eux-mêmes. Donc, cette cause sacrée n'a pas besoin d'un référendum, n'a pas besoin d'un accord national, n'a pas besoin d'un consensus, n'a pas besoin...
Ce qui est la conviction de Talabani.
Ce qui est la conviction de Barzani. Par contre, pour Barzani et Nashirwan Mustafa, cette cause sacrée doit passer absolument par un consensus national. Ouais, sans consensus national, on ne peut pas mettre en place l'indépendance du Kurdistan. Premier mot. Deuxième mot, pour Talabani et Nashirwan Mustafa, on ne peut pas déclarer l'indépendance du Kurdistan sans négocier avec à la fois Téhéran, Ankara et Bagdad. Oui, bien évidemment, l'opinion internationale, Washington, Londres, Paris, Berlin, est intéressante et pèse sur cette question. Mais avant tout, l'accord national, le consensus national, ensuite la négociation avec les capitales, et ensuite, en troisième lieu, chercher à consulter et ne pas à satisfaire la coalition internationale. Alors, aujourd'hui, vous avez un Kurdistan irakien pratiquement déchiré en 12 zones. La zone verte de Talabani, la zone jaune de Barzani. Hein, c'est la couleur de leur drapeau. Ainsi, cette terminologie est entrée dans l'analyse du GRK. Barzani est le président du GRK qui ne peut pas, par exemple, déplacer un policier à Halabja ou à Souleymaniye. Talabani, bien évidemment, quand je dis Talabani, c'est-à-dire Talabani et Nusayran Mustafa, parce que c'est la zone verte partagée entre Goran, le mouvement du changement, et l'UPK, l'Union patriotique du Kurdistan de Talabani, ne peuvent pas aller, sans l'accord de Barzani, ne peuvent pas se rendre à Erbil, la capitale du Kurdistan. Par exemple, à cause des accords entre les deux zones, Barzani a licencié, j'emploie le mot licencié, les ministres de Goran dans le gouvernement régional du Kurdistan. Maintenant, les ministres de Goran n'ont pas, le président de l'Assemblée kurde n'a pas le droit de retourner à son poste à Erbil.
D'accord, donc on comprend Adel Bakawan, et peut-être pour revenir un peu sur la question des minorités, finalement Barzani repousse, rejette les opposants politiques, on imagine que s'agissant de la représentation politique de la diversité ethnique de la région, chaldéens, assyriens, turkmènes, yézidis, on est également loin du compte. Normalement, on a une coalition gouvernementale aujourd'hui qui a pris ses fonctions depuis 2 ans maintenant, depuis juin 2014. Il y a plusieurs partis dans cette coalition et elle doit, en théorie, refléter la diversité de la région. Est-ce que c'est le cas ?
La coalition doit refléter ou la solution ?
La coalition gouvernementale, elle devrait refléter la diversité ethnique.
Oui.
Confessionnel de la région. Oui, est-ce que les Chaldéens, les Assyriens, les Turkmènes, les Yézidis, est-ce qu'ils sont là dans la coalition gouvernementale ?
Alors, à l'ordre national, bien évidemment, non. Lorsque vous prenez le gouvernement central, non, ce gouvernement central est représenté et sous la domination totale des chiites. Ça, c'est un fait. C'est un fait. C'est pas une invention de la part d'un sociologue.
Mais dans le gouvernement régional du Kurdistan.
Alors, premier mot, deuxième mot. Le gouvernement régional, quand je parle avant d'arriver le gouvernement au Kurdistan d'Irak, le gouvernement qui se mettra en place dans la région sunnite, sunnite aux Kurdes, arabes aux chiites, enfin, c'est un ensemble, avec toutes ces minorités. D'ailleurs, le terme de minorité a tout à fait sa place lorsqu'on aborde la zone sunnite, parce que cette zone sunnite est peuplée par un ensemble de minorités, comme vous les avez citées, les Kurdes, les chiites, les sunnites.
Vous dites que le terme minorité a sa place, je fais une parenthèse à mon tour. Dans la Constitution, on ne parle pas de minorité, on parle de composantes.
On parle de composantes, moi je parle de la zone sunnite. Bien évidemment, dans la Constitution irakienne, on parle des composants, on ne parle pas des minorités. D'ailleurs, si vous employez le terme minorité pour les sunnites ou pour les Kurdes, ils les prennent très très mal. C'est comme si on les insultait. Voilà. Donc oui, est-ce qu'ils ont une place ? Non, à l'échelle nationale, non, ils n'ont pas une place, malheureusement. À l'échelle sunnite, le gouvernement qui se constituera après Daesh, non, à ma connaissance, non. Toutes les minorités ne seront pas représentées, mais au Kurdistan non plus. Au Kurdistan, pardonnez-moi, juste encore 30 secondes, souvent en Occident, on met en scène le GRK comme la terre de la tolérance, du vivre ensemble. C'est vrai. À l'échelle sociétale, il y a ce vivre ensemble, il y a cette tolérance, il y a cette acceptation des différentes communautés ou des différentes minorités. Mais dans le champ politique, vous verrez jamais, par exemple, un arabe kurdistanais à la tête du GRK.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
culture monde autour de ces minorités. Aujourd'hui, nous sommes en Irak, turkmène, sunnite, kurde, avec Adel Bakawan. On va s'intéresser à présent à la représentation politique de la composante sunnite. Revenons un tout petit peu en arrière. Partie basse, partie de la résurrection arabe et socialiste, créée à Damas en 47 dans le but de créer une unification des différents États arabes en une seule et même nation. Il s'installe d'abord en Syrie dans les années 60 et puis à peu près au même moment en Irak en 68, après la prise de pouvoir ratée 5 ans plus tôt. C'est d'abord le général bassiste Ahmad Hassan al-Bakr qui prend le pouvoir. Et puis 10 ans plus tard, évidemment, suite à des conflits internes au parti, vient son successeur Saddam Hussein.
Les conspirateurs sont nombreux, mais soyez assurés que je prendrai mon arme et que je me battrai jusqu'au bout. Naden Kar el-Mayed Abdallah, Ismaël el-Nejjar, Zuher Yaher, Muzeher el-Meyer, Zuher Yaher Libienko. Sortez, sortez.
Longue vie au parti! Longue vie à Saddam Hussein! Longue vie à Saddam Hussein!
Voilà, une archive, on reconnaît là les méthodes expéditives d'un Saddam Hussein qui s'empare du pouvoir le 16 juillet 1979, qui pousse Ahmad Hassan al-Bakr vers la sortie, des méthodes qui vont être utilisées ensuite, dans le cadre de répression de mouvements de contestation révolutionnaire et séparatistes à la fois chiites et kurdes. Quoi qu'il en soit, ce parti Baas, il va dominer la vie politique irakienne jusqu'en 2003 avec la chute de Saddam Hussein, et de fait, il va permettre aux sunnites d'être particulièrement bien représentés, puisqu'ils vont occuper la plupart des positions d'influence. Myriam Benrad, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous depuis Dublin. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman et puis maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Limerick en Irlande. Une fois qu'on a rappelé les éléments que je viens de rappeler, c'est-à-dire en gros le fait que les sunnites ont dominé la vie politique irakienne pendant des décennies, est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu nuancer les choses et rappeler qu'en réalité les forces sunnites ne sont pas aussi homogènes et unies qu'on voudrait bien le dire parfois? En réalité, la composante sunnite, elle est beaucoup plus fragmentée, Myriam Benrad.
Oui, je crois que cette représentation a beaucoup à voir, en tout cas dans le champ occidental, avec le thème de la tripartition, qui en réalité s'est imposé dans les grilles de lecture en 2003. J'en parle dans mon ouvrage, il y avait eu une fameuse tribune publiée à l'époque dans le New York Times sur la tripartition de l'Irak, sur le fait que, parce que déjà à l'époque, le pays avait sombré dans l'extrême violence, et donc la proposition qui avait été faite à l'époque par Leslie Gelb, président du Council on Foreign Relations, était qu'il fallait opérer une tripartition sunnite, chiite et kurde. Alors c'était là, évidemment, une négation de la complexité irakienne qui a été rappelée par votre intervenant précédent. On le voit d'ailleurs au sein de chaque entité. Les Kurdes sont une entité complexe, diverse, plurielle. Il en va de même pour les chiites. Il en va de même, évidemment, pour les sunnites. Mais je crois que ce qui est frappant, c'est que 13 ans après l'invasion militaire américaine, on reste finalement très prisonnier de ces schémas finalement très orientalistes qui sont apposés à la société irakienne et qui ne correspondent pas aux réalités. Et ça pose un problème aussi par rapport à l'après justement État islamique, parce que on ne sait pas finalement comment gérer cette diversité. Je pense qu'il y a une forme de grande torpeur chez les Irakiens face à ce qui arrive après, en tout cas c'est clair chez les sunnites, qui ne n'ont plus de référent en fait, qui ont d'ailleurs opté pour certains pour l'État islamique à défaut d'autres référents, notamment d'un référent national fort, celui-ci ayant été quand même systématiquement détruit depuis 2003.
Alors justement, Myriam Benrad, parce que vous avez raison, dès la formation du Conseil du gouvernement irakien en juillet 2003, les sunnites sont exclus du jeu politique face aux composantes kurdes et chiites, sur laquelle on a misé pour bâtir la future, je mets des guillemets, démocratie irakienne. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour créer une représentation politique sunnite suffisamment forte, suffisamment crédible et de nature en particulier à détourner les communautés sunnites des djihadistes de l'EI, Myriam Benrad?
Alors, il faut bien rappeler une chose avant de vous répondre par rapport à 2003, parce qu'il y a aussi effectivement ce que vous aviez dit dans votre introduction, le rapport des sunnites à l'État. Il est vrai qu'il y a eu un rapport symbiotique à l'État irakien, mais ça n'articulait pas forcément d'identité communautaire. Donc c'est là que le problème se pose en 2003, parce qu'effectivement, ayant été mise en minorité, les sunnites se sont repliés sur une identité infranationale, en l'occurrence leur identité religieuse. Et c'est bien pour cela qu'on a eu ce phénomène de tomber dans les bras du djihadisme d'un certain nombre de jeunes Irakiens qui, encore une fois, ne sont plus imbibés du référent national. Il y a parmi les jeunes sunnites irakiens qui militent dans les rangs de l'État islamique, des gens qui, pour qui le nationalisme irakien ne fait plus du tout sens. Et ça, il faut quand même le dire. Et donc, c'est ces jeunes qu'il faut ramener à une forme d'iraquité.
Comment on fait ? Comment on fait ?
Alors, comment on fait ? Écoutez, c'est tout le problème.
Est-ce possible ? Est-ce possible ?
Aujourd'hui, c'est la grande question. Il y a plusieurs choses. D'une part, quel État irakien ? Parce que votre intervenant précédent l'a très bien mis en avant concernant la question kurde et la question de l'autonomie, voire de l'indépendance. Quel État irakien ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore reconstruire un État-nation irakien ? Quel rapport entre Bagdad et les régions ? Parce qu'en fait, c'est une question aussi de dévolution des pouvoirs. Et évidemment, c'est une question qui se pose dans l'après-État islamique, sachant qu'un certain nombre de tribus et d'acteurs sunnites qui sont prêts à prendre le relais, ont demandé d'ores et déjà une dévolution des pouvoirs en s'inspirant notamment du cas kurde, qui a quand même inspiré un certain nombre d'autres acteurs dans les régions, dans les périphéries du pays. Donc c'est la question. J'aimerais quand même aussi mettre en avant que le gouvernement irakien a, à mon avis, échoué dans sa tâche. Les réformes n'ont pas été conduites comme elles auraient dû l'être. On a quand même eu des mouvements de protestation qui ont été massifs contre les élites irakiennes. Je pense qu'il faut quand même réaliser que les Irakiens, aujourd'hui, sont dans une situation de précarité sans précédent. Les populations sunnites, notamment celles, par exemple, de Mossoul ou de la province de Ninive, plus largement, n'ont aujourd'hui plus aucune vision du futur, sont complètement perdues. Les violences sont terribles dans la ville. Enfin, les témoignages qu'on a montrent bien que ces gens ont été violentés par l'État islamique, alors qu'on a quand même persisté à dire pendant 2 ans qu'encore une fois, que l'État islamique avait le soutien des populations. C'est quand même largement nuancé par les témoignages qu'on a. Il y a évidemment ensuite la question des rapports entre Arabes et Kurdes dans les provinces du Nord, dans les territoires disputés. Quels arrangements post-État islamique à Kirkouk, encore une fois dans la province de Ninive. En fait, pour vous répondre plus simplement, il n'y a aujourd'hui pas vraiment, à mon avis, de stratégie pour l'après-État islamique et une peur énorme chez tous les Irakiens, y compris les Kurdes, des représailles qui vont arriver dans l'après-État islamique.
Oui,
et moi, je crois que malheureusement, ce soit le scénario le plus probable.
C'est en substance ce que nous disait d'ailleurs notre intervenant ici, Adel Bakawan. Un mot peut-être, Adel Bakawan, sur cette possibilité ou non de redonner aux sunnites un rôle dans le paysage politique. On voit qu'il y a des choses qui ont été faites récemment, je pense par exemple à ces nominations au sein de l'armée de sunnites. Est-ce que ça, c'est de nature à remettre la composante sunnite au sein du jeu politique ? Est-ce que vous y croyez, Adel Bakawan ?
Le problème, c'est que depuis 2003, les chiites et les kurdes mobilisent toutes leurs compétences et capacités pour faire participer des acteurs sunnites d'une manière artificielle à Bagdad. Et malheureusement, parce que la communauté sunnite n'est pas intégrée telle qu'elle est dans le champ politique irakien et au gouvernement de Bagdad, tant que cela n'est pas fait, je pense on n'arrive pas à trouver une solution pour la tragédie irakienne, la tragédie actuelle. Premièrement. Deuxièmement, je voulais juste faire 2 petites remarques. La première, avec beaucoup de prudence, j'emploie le concept identité irakienne. Pour moi, cette identité est très problématique depuis toujours, depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Je me pose la question si vraiment il y a eu une identité irakienne. Si on a eu une identification de l'Irak, si on sait ce que c'est l'Irak, est-ce que l'Irak est un pays arabe? Est-ce que l'Irak est un pays, qu'on appelle Irak avec l'identité irakienne? C'est autrement dit, moi, kurde, Myriam, arabe, je sais pas, moi, turcomane, chrétien, musulman, etc. On se sent tous irakiens, mais comment, cet Irak n'a jamais eu une identité englobante, pour inclure tous les Irakiens. Deuxième remarque, et je m'arrête là, c'est que Saddam Hussein, s'il a échoué dans tous les domaines, à mon sens, il a réussi dans un domaine par excellence, à savoir, il a pu construire de nous, les Irakiens chiites, les Irakiens kurdes, les Irakiens sunnites, chrétiens, turcomanes, etc. Construire de nous sur son image. Autrement dit, il s'est prolongé dans notre personnalité. Nous sommes tous des petits Saddam Hussein, chiites, sunnites, kurdes. Et l'indicateur qui nous... Oui, pardon.
Je vous en prie. Finissez votre phrase.
L'indicateur par excellence qui met en visibilité cet état, c'est la méthodologie de traitement de la part des chiites vis-à-vis des sunnites et les kurdes vis-à-vis des sunnites, bien évidemment. Autrement dit, on applique exactement, d'une manière identique, la méthodologie de Saddam Hussein qui a appliqué contre les kurdes et les chiites.
Merci. Je voudrais vous remercier, Myriam Benrad, d'avoir été ce matin avec nous en direct et rappeler peut-être le titre de votre ouvrage, Irak, la revanche de l'histoire, qui est un très bon ouvrage pour comprendre un peu tous les enjeux actuels. On va retrouver justement un homme qui, lui, croit à l'identité irakienne et qui pense aussi qu'elle passe par sa diversité ethnique et religieuse. C'est Saad Saloum. Il est politologue, il est universitaire. Il y a une dizaine d'années, il a créé l'Institut Massara pour le développement culturel et des médias. C'est une ONG qui publie une revue et qui produit des commentaires. Cette revue, c'est Massara, justement, du même nom, qui consacre des numéros aux minorités irakiennes, mandéens, chrétiens, yézidis et même juifs, ce qui lui a coûté d'ailleurs quelques pertes d'annonceurs, preuve de la difficulté à envisager le rôle qu'a joué la communauté juive par le passé. Il est chiite lui-même, il est né à Bagdad, il est l'une des voix qui affiche son attachement à une identité irakienne plurielle en se battant contre la culture de l'exclusion, la mémoire sélective qui mine cette identité irakienne. Quelle place pour les minorités ethniques et religieuses, autres que sunnites, chiites et kurdes, à la fois dans la constitution mais aussi concrètement sur le terrain? Saad Saloum est au micro de Tiffaine de Rokini.
Tout d'abord, l'article 2, alinéa 2 de la Constitution irakienne de 2005 reconnaît certaines minorités religieuses, parmi lesquelles les chrétiens, les mandéens et les yézidis. L'article 125 fait aussi référence à d'autres minorités religieuses. Cette reconnaissance est une bonne chose, mais elle n'a pas permis d'instaurer un système de gestion des diversités culturelles qui prendrait en compte l'ensemble des groupes ethniques, religieux, linguistiques en Irak. Il existe d'autres minorités religieuses dont la constitution ne fait pas mention, à l'instar des Kaka'is, des Ba'a'is, des Irakiens d'origine africaine et des Chabaks. Deuxièmement, la valeur de cette reconnaissance est seulement limitée à la constitution. Cette reconnaissance n'a donc pas de valeur effective tant qu'on ne met pas en place des lois qui protègent les minorités contre la discrimination. Tant qu'ils restent confinés dans la Constitution, ces articles n'auront pas de vraie valeur. Ils seront vite oubliés.
On parle beaucoup dans les médias occidentaux des persécutions sur les chrétiens et les yézidis, mais il y a beaucoup d'autres communautés, Saad Saloum, comme les Sabiens mandéens, qui subissent aussi des discriminations et dont on ne parle quasiment jamais. Comment l'expliquer et quel est le sort réservé aujourd'hui à ces minorités oubliées ?
C'est une question pertinente. L'image de l'Irak dans les médias occidentaux est totalement stéréotypée. Elle se concentre seulement sur quelques composantes sociales. Aujourd'hui, en Irak, il existe 14 branches chrétiennes reconnues officiellement. Mais il existe également les Circassiens, les Tchétchènes, les Daghestans, les Chabaks, les Turkmènes, qui peuvent être chiites, sunnites ou même catholiques. S'ajoutent à cette longue liste les Irakiens d'origine africaine, les Zoroastriens. Une grande partie de ces minorités demeure inconnue à l'échelle internationale et même à l'échelle nationale pour diverses raisons. Moi, je considère que ces minorités doivent être définies et reconnues pour qu'elles puissent exprimer leurs revendications et pour qu'on puisse effectivement parler d'une diversité irakienne qui constitue une richesse pérenne, plus pérenne que le pétrole et plus pérenne que l'eau.
Dans la province de Bassora, au sud-est de l'Irak, il y a une minorité d'origine africaine d'environ 400 000 personnes qui est très largement méprisée et discriminée en Irak. Après la chute de Saddam Hussein en 2003, des intellectuels noirs irakiens ont saisi cette occasion pour exprimer leurs idées et ils ont créé en 2007 le mouvement des Irakiens libres. Près de 10 ans après la naissance de ce mouvement, quel bilan en tirez-vous ?
Les Irakiens noirs ou les Irakiens d'origine africaine connus en Irak sous le nom d'Irakiens à la peau brune ont des origines africaines différentes. Leurs ancêtres ont immigré en Irak pendant le Moyen-Âge musulman. Ils se sont installés dans différentes régions. Parmi eux, il y en a qui viennent de Nubie, l'actuelle Égypte, d'autres qui viennent de l'île de Zanzibar, d'autres d'Éthiopie. À leur arrivée, ils se sont installés dans les régions sud de l'Irak et se sont bien intégrés aux structures sociales existantes. Avant l'année 2003, il y avait un manque de connaissances concernant les origines et leurs spécificités culturelles, à part le fait qu'ils suivaient les croyances de leurs ancêtres. Alors qu'en vérité, il existe parmi cette population une partie qui est musulmane chiite, une autre sunnite ou encore chrétienne. Avant la mise en place du mouvement des Irakiens libres, avec à sa tête Jalal Diab, on ne savait pas quelles étaient les difficultés sociales qu'ils vivaient au quotidien depuis des siècles. Ce mouvement a exprimé des revendications claires, premièrement un quota au Parlement irakien, ainsi qu'au gouvernorat de Bassora, et deuxièmement, en finir avec la discrimination raciale à laquelle les Irakiens d'origine africaine font face quotidiennement. Ces revendications ont pris une nouvelle tournure en 2009 lorsqu'Obama a été élu président des États-Unis. Cet événement a donné une nouvelle impulsion à ce mouvement revendicatif. Ils ont réussi pour la première fois à se présenter aux élections du gouvernorat de Bassora. Mais en 2013, le leader du mouvement, Jalal Diab, s'est fait assassiner. Cet événement tragique a fait reculer leurs revendications et désormais ils doivent recommencer à faire entendre leur voix.
Vous avez interviewé en décembre 2015 dans Al Monitor Toran Al-Mufti, un homme politique turkmène qui se bat pour l'établissement de nouvelles provinces. L'idée, c'est d'éviter les conflits ethniques, en particulier dans les territoires disputés où il y a une grande diversité ethnique et religieuse. Je pense à Ninive, à Bassora ou encore à Kirkuk. Est-ce que vous partagez son avis ? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles provinces, selon vous ? Et plus largement, à quoi ressemblera l'Irak dans 20 ans, Saad Saloum ?
Moi, je crois en l'importance de l'unité de l'Irak et surtout en l'importance de la diversité pour parvenir à cette unité. Je considère que cette diversité est un atout majeur pour le pays dans la mesure où elle est une richesse durable. Autrement dit, si les minorités venaient à émigrer, le pays serait divisé en trois grandes parties dominées par les sunnites, les chiites et les kurdes. C'est pour cela qu'il est crucial de conserver cette diversité. Et durant les 20 prochaines années, je ne peux pas imaginer l'Irak sans cette diversité. C'est la richesse, le socle et la clé pour l'unité du pays. Alors comment est-ce qu'on peut parvenir à ça ? L'un des scénarios qui consiste en effet à mettre en place des provinces dans les régions traversées par des conflits, par exemple dans la province de Ninive que Daesh a envahie en 2014. On peut mettre en place une province pour les Yazidis à Sinjar, pour les Turkmènes à Tal Afar, pour les Chabak, mais aussi pour les autres minorités. Ce scénario pourrait servir à transformer les conflits actuels en une sorte de compétition positive, d'émulation entre les différents partis en vue de développer ces provinces, d'améliorer les infrastructures et le service tertiaire et d'ainsi encourager le repeuplement de ces provinces. Qui dit mise en place des nouvelles provinces dit octroi d'un budget fédéral à ces provinces, alors elles pourraient acquérir les éléments économiques adéquats pour les retours des déplacés. Sans cela, il leur est impossible de revenir. Il existe aussi d'autres éléments essentiels à la conservation de ces diversités, parmi lesquels la suppression des lois qui luttent contre cette diversité, la modification des programmes scolaires pour qu'ils correspondent à une population plurielle. Il faut travailler avec les jeunes sur cette question-là parce que ce sont eux qui sont les plus nombreux dans le pays. Si les décideurs politiques comprennent l'importance de cette diversité et font tout pour la préserver, on parlera effectivement dans 20 ans du rôle essentiel de l'Irak dans la stabilisation de la région.
Voilà, cette voix qu'on entendait, c'est celle de Saad Saloum, qui était depuis Bagdad, qui est journaliste et universitaire irakien, qui est responsable du département de recherche au collège de sciences politiques de l'université Mustan Siria de Bagdad, rédacteur en chef de Mazarat, ce magazine consacré aux minorités irakiennes. Il était au micro Tiffen de Rekini. Adel Bakawan, elles sont rares les voix qui prêchent la diversité ethnique et confessionnelle de l'Irak. La situation est tellement difficile qu'on se demande si malheureusement il n'est pas un doux utopiste.
C'est des voix nostalgiques. Qui malheureusement n'ont rien à voir avec la réalité irakienne. La réalité irakienne, aujourd'hui, les acteurs politiques sont dans le bricolage. Ils veulent bricoler. Le bricolage approfondit la tragédie irakienne. Tant que nous n'avons pas un projet politique très très sérieux pour englober tous les composants de la société irakienne, cette tragédie va continuer.
Il va arriver ce projet ? Vous y croyez ?
Non, j'y crois pas.
Merci en tout cas, Adel Bakawan, d'avoir été avec nous ce matin, malgré cette fin pas très optimiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappellerai que vous êtes chercheur associé à l'École de hautes études en sciences sociales de Paris, également chargé de cours à l'Université d'Evry, où vous vous rendez dans quelques instants. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va tourner cette page autour des minorités, ou plutôt des composantes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans la constitution irakienne en réalité. C'est pas les minorités, c'est les composantes, les Turkmènes, les Sunnites, les Kurdes, les Chiites, cet Irak écartelé. Place à notre tour du monde, à notre tour du monde des idées, et à Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on parle cette semaine de conservatisme britannique. Hier vous nous avez parlé de Theresa May, première ministre d'un nouveau gouvernement conservateur issu du vote sur le Brexit. Or voici que paraît pour la première fois en français un livre de Roger Scruton. C'est important parce que c'est un homme très important dans la pensée conservatrice britannique. On avait eu d'ailleurs l'occasion de l'entendre ici dans Culture Monde à ce même micro. Quelle influence est-ce que Scruton peut exercer sur la conduite des affaires en Grande-Bretagne, Brice ?
Scruton lui-même avait déploré dans des interviews n'avoir été ni lu ni même consulté par les Thatchériens. Il avait pourtant publié The Meaning of Conservatism l'année suivant le retour des conservateurs au pouvoir en 1980. Donc, à cette époque, explique-t-il, aujourd'hui, le parti conservateur se passait de philosophie. Son idéologie se résumait à l'apologie du marché prônée par des think tanks comme l'Institute for Economic Affairs. Or, selon la philosophie conservatrice, si le marché est une des conditions nécessaires à l'exercice de la liberté, il n'est pas suffisant. Déjà à cette époque, Scruton mettait en garde contre les illusions du libéralisme économique. Comme les libéraux, Scruton juge que le marché procède d'un ordre spontané. Mais en tant que conservateur, il le conçoit comme l'une des institutions dont nos sociétés se sont dotées au fil du temps. Le marché ne saurait s'abstraire de l'ordre juridique et moral, s'autonomiser au point de devenir une fin en soi. Lorsque le marché, par exemple, et la morale entrent en conflit, eh bien, c'est cette dernière qui doit primer. Roger Scruton, parce qu'il est conservateur, est aussi écologiste. C'est un défenseur du paysage anglais traditionnel, indigné de voir les chemins de sa chère campagne jonchés de bouteilles et de canettes vides. Il accuse d'ailleurs les fabricants de bière et de soda d'externaliser une partie de leurs coûts en refusant de recycler leurs emballages. Scruton critique aussi le libéralisme parce qu'il réduit les individus à des abstractions. L'homo economicus, mu par la seule maximisation rationnelle de son intérêt, pas de libéralisme, sans un enracinement dans un lieu et une communauté particulière avec ses modes de vie. À ce titre, Scruton, comme tous les conservateurs du reste, critique les théories libérales du contrat social. Cette fiction d'un accord entre les vivants s'accordant afin de poursuivre leurs intérêts immédiats et la réalisation de leurs désirs fait l'impasse en effet sur l'intérêt de leurs successeurs au sein de la communauté.
Tous les êtres humains ont un côté conservateur, c'est-à-dire ils s'attachent aux habitudes, aux institutions, à la mode de vie qu'ils aiment et quand ils sentent que ces choses sont menacées, ils se préparent à les défendre.
Et c'est la voix de Roger Scruton qu'on entendait, qui parle français. Alors qu'est-ce que le conservatisme brise sur le plan philosophique? Et comment est-ce qu'on peut définir le conservatisme britannique, en tout cas tel que le porte ce penseur Roger Scruton?
Eh bien, à lire Scruton, on retire le sentiment que le conservatisme britannique est l'un des enfants des Lumières, comme le libéralisme ou le progressisme, mais plutôt des Lumières anglo-saxonnes que des Lumières françaises. Nos Lumières à nous étaient plus radicales parce qu'elles étaient anticléricales. Elles misaient sur l'universalité de la raison, vertu cardinale, pour reconstruire tout le système politique et social ex nihilo. Et notre révolution de 1789 s'en déduit. Les Lumières britanniques avaient opté plutôt pour les vertus sociales, la compassion, la bienveillance, la sympathie. Elles se méfiaient de la rupture et de toute reconstruction sur table rase. Et c'est précisément ce qui a monté contre notre révolution, Edmund Burke, qui passe pour le fondateur du conservatisme anglo-saxon. Il faut remarquer que les jugements diffèrent sur Burke, sur le cas Burke. Si le libéral Isaiah Berlin voyait en lui l'une des premières figures des anti-lumières et le précurseur des réactionnaires comme Bonald, John Pocock lui estime au contraire que son hostilité envers notre révolution anticipe celle de George Orwell envers le stalinisme. François Furet lui a consacré un article passionnant, Burke ou la fin d'une histoire de l'Europe. Il y montre en quoi la pensée de Burke, selon laquelle chaque peuple hérite de ses ancêtres un capital culturel spécifique, ne pouvait que lui faire refuser de voir dans notre révolution de 89 un modèle à prétention universelle. Je cite Furet commentant Burke. Chaque peuple a un droit imprescriptible à ce qu'il a acquis. L'analogie avec un patrimoine privé interdit la référence à l'universel. Les libertés des citoyens anglais ne sont pas le produit des droits de l'homme en général, fondés sur une métaphysique du sujet, mais celui d'une histoire particulière qui a cristallisé une tradition particulière, la common law et la constitution anglaise. Eh bien, c'est essentiel pour comprendre le conservatisme britannique. À ses yeux, les institutions, les coutumes, les traditions et même les préjugés constituent comme de la sagesse cristallisée au fil des générations. Ils sont, dit Scruton, une réserve de savoir-faire accumulé. Ce sont, je le cite encore, les solutions qui ont émergé avec le temps, des réponses qui ont été élaborées face à des questions d'organisation sociale qui, elles, n'ont pas disparu.
Merci beaucoup, Brice Couturier. Je suis en train de chercher le titre de l'ouvrage de Roger Scruton. Est-ce que vous l'avez en mémoire, Brice, qui vient donc d'être publié en français? Vous avez des petites notes devant vous, vous allez le retrouver rapidement.
Je suis en train de le lire et je l'ai pratiquement fini, mais je me souviens plus du titre. Ça, il s'appelle « Comment peut-on être conservateur ?» Voilà, et ça vient de paraître, oui, absolument.
Merci beaucoup, Brice. Donc, voilà, pour indiquer aux auditeurs qui voudraient éventuellement se le procurer.
C'est sur le site.
Merci beaucoup, Brice, pour cette chronique qu'on peut évidemment retrouver sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Dans un instant sur France Culture, ça sera la grande table avec Olivia Gesbert.